Bonsoir à toutes et à tous. Merci au Parti du Travail pour son invitation. Merci à Christiane et Patricia pour ces deux premières interventions. Moi, je vais vous parler de ce voyage que j'ai fait au Venezuela il y a 3 semaines à peu près. Donc, c'était pour la deuxième mission de solidarité avec la révolution bolivarienne, la mission était du 12 au 15 avril, était organisée par le Conseil mondial de la paix et la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, deux organisations anti-impérialistes, Solidarité internationale. À cette mission ont participé des délégués de tous les continents, 87 délégués en tout, qui représentaient 65 organisations actives dans 45 pays. Notre délégation suisse était composée de 4 personnes qui représentaient les jeunes POP, le Parti Suisse du Travail, Alba Suiza, Suisse à Cuba et le Mouvement Suisse de la Paix. On était parmi ces 4 personnes une Suisse alémanique, un Tessinois, moi qui suis suisse romande, et puis la 4e personne qui est une camarade colombienne qui vit en Suisse depuis plusieurs années. C'était aussi intéressant d'avoir ces différents points de vue pendant la brigade, la mission. Sur place, on a été reçus par les jeunesses du Parti communiste vénézuélien et du Parti socialiste unifié du Venezuela. On est resté plus longtemps que la durée de la mission, quelques jours de plus. Ce qui nous a permis d'organiser aussi un programme qu'on avait demandé à l'ambassade d'organiser pour nous et qui, sur place, a été préparé par la Cancilleria, qui est le ministère des Affaires étrangères. Oui, c'est ça. Et donc, ça nous a permis de visiter un certain nombre de lieux qui auraient été difficilement accessibles pour des simples touristes, je dirais. Entre autres, la Corpoelec, enfin, un site de Corpoelec qui est l'entreprise nationale d'électricité du Venezuela. Et ça, c'était une visite très intéressante, notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'une grande partie des machines de cette entreprise viennent de Suisse. Ce que moi je savais pas du tout. Et bon, nous on était dans le secteur qui entretient et qui gère tout ce qui est compteur électrique. Et on a pu se rendre compte notamment que à cause du blocus, en fait, les activités peuvent pas se faire normalement, pas parce qu'ils ont pas les compétences, disons, mais parce qu'en fait il leur manque des matériaux assez basiques pour pouvoir travailler, style. En fait, là ils rénovent en fait les vieux compteurs électriques. Et donc, ben, il faut des peintures, il faut des solvants, enfin un certain nombre de composantes qui ne sont pas forcément fabriquées au Venezuela et qui sont soumises au blocus. Cela dit, il y avait quand même tous les travailleurs de l'usine qui étaient là ce jour-là, parce qu'il y avait la distribution des clap obrero, donc il y a ce système je vais vous expliquer après un peu plus en détail, mais il y a ce système des cartons de nourriture subventionnés qui sont distribués par l'État à 6 millions de familles. Mais il y a aussi des caisses dans certaines entreprises qui sont distribuées en plus aux travailleurs de l'entreprise. Et donc ce jour-là, c'était la distribution des clapes. Et c'est pour ça que tout le monde était présent. Et c'était intéressant parce que on a pu discuter avec des leaders syndicaux, avec un député de l'Assemblée nationale constituante. Et puis, on a un peu mieux compris ce que signifie un des niveaux ou une des déclinaisons de la lutte des classes au Venezuela. C'est-à-dire qu'on a parlé maintenant beaucoup de la lutte des classes internationales. La lutte pour l'indépendance des pays victimes de cibles de l'impérialisme. Ça, c'est un des niveaux. Ensuite, on a dans le Venezuela, qui est encore une économie majoritairement capitaliste, on a une lutte, on va dire, traditionnelle entre capital et travail. Mais au sein des entreprises qui ont été nationalisées, il y a encore la lutte entre la culture capitaliste, historique, et puis la nouvelle culture qui est en train de naître, d'autogestion des travailleurs, de prise de pouvoir des travailleurs, aussi une culture contre la corruption. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que, par exemple, à Coquelle, il y a une grande cafétéria où les travailleurs eux-mêmes gèrent entièrement cet aspect-là de leur vie à l'usine, qui est donc les trois repas journaliers. Donc c'est des choses qu'on trouve très souvent au Venezuela à différents niveaux, c'est ces éléments d'autogestion et d'auto-organisation qui sont malheureusement trop peu connus par la gauche en Europe, parce que c'est vraiment des expériences intéressantes quand vous avez sur un site 400 ouvriers qui doivent ensemble gérer des aspects de leur travail, de leur usine. Et puis toujours, c'est toujours des luttes, c'est clair, comme tu l'as dit, c'est toujours des luttes pour plein de raisons. Aussi parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette nouvelle manière de faire, qui avaient des privilèges dans l'ancienne manière de faire. Donc ça, c'était très intéressant. Je vais passer un peu. Bon, je voulais commenter plus, mais je préfère après qu'on ait du temps pour les questions. Mais j'ai pris quelques photos aussi de magasins. Alors, si vous voulez, il y a eu beaucoup de désinformations sur cette question de la nourriture au Venezuela. C'est vrai que la situation est très difficile, on ne va pas le cacher, puisque le Venezuela, il importe une grande partie de sa nourriture. Hein. Donc le blocus, il empêche vraiment des importations de biens de première nécessité. Mais c'est pas. Enfin, moi, j'ai été dans des pays où il n'y avait vraiment pas de nourriture, hein, donc je sais ce que c'est. Moi, en arrivant là-bas, en voyant Caracas, hein, c'est pas tout le Venezuela non plus, mais j'ai vu quand même autre chose qu'une crise humanitaire. Pour moi, c'est pas une crise humanitaire. Il y a des magasins ouverts, il y a de la nourriture dans les magasins, il y a des gens dans la rue, il y a des enfants qui vont à l'école. Donc il y a aussi toute une normalité, une quotidienneté qui n'est pas retransmise ici par les médias hégémoniques. Ça, c'est un quartier populaire de Caracas, distribution d'éclats. On a visité, c'était une demande qu'on avait aussi nous, on a visité un quartier autogéré qui s'appelle Amatina. C'est intéressant. Vous savez qu'il y a que le gouvernement, depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez, a construit 2 600 000 appartements qui ont été donnés aux personnes qui n'avaient pas de logement. Donc en fait, au Venezuela, il y a encore énormément de gens qui n'ont pas de logement, soit parce que leurs logements ont été détruits par des catastrophes naturelles, soit parce qu'ils sont trop pauvres pour accéder à un logement. Et bon, 2 600 000 familles ont reçu un logement. Mais il y a un modèle où c'est l'État qui construit un bâtiment et ensuite les personnes qui deviennent propriétaires de l'appartement. Mais dans le cadre de cette mission, qui s'appelle Mission Vivienda, il y a aussi des projets où l'État donne le terrain à un ensemble de personnes et leur donne aussi le matériel et les ressources nécessaires pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur quartier. Et donc c'est là qu'on est allé. Donc ça, là, c'était 130 familles qui ont construit ce quartier. Ils ont leur propre boulangerie aussi à l'intérieur. Et puis voilà, ils sont en train de construire leur quartier. Donc c'est plusieurs bâtiments comme ça. Ces 130 familles, elles ont décidé elles-mêmes les plans. C'est pour ça que vous avez ces énormes balcons. Parce que au début, les hommes du quartier voulaient un balcon au salon. Le salon, puis on a le balcon. Puis les femmes, elles ont dit, ouais, mais vous rigolez pour que vous puissiez être là, poser les pieds tranquilles sur le canapé, puis sortir fumer votre cigarette. Non, non, non. On veut un balcon à la cuisine. Et du coup, bon, c'était ce genre de... C'est ça qu'on a comme genre de... Comment l'expliquer? Comme genre de d'émergence dans un débat populaire où les gens... Ben, parlent de leurs problèmes concrets et décident ensemble comment résoudre ces problèmes. Là, ils étaient en train de construire des nouveaux canaux pour l'électricité, je ne sais plus exactement pourquoi. Donc ça, c'est un peu le quartier. Puis ben, voilà, ça, c'est les femmes, des femmes admirables qui, donc pour elles, ben, il y a quelques mois encore, elles n'avaient pas de maison. Donc elles avaient déjà leurs enfants, qu'elles vivaient soit avec leurs parents, soit avec quelqu'un de la famille. Et puis ces femmes-là qui ont toutes des enfants, elles ont tout appris à conduire des machines de chantier, à construire des murs, à faire des plans. La femme qu'on voit en premier plan, c'est leur avocate, parce qu'évidemment il y a aussi toutes les démarches juridiques, etc. pour construire des maisons. Et ce qu'on ne voit pas là sur les photos, c'est qu'il y a aussi derrière toute une série de jardins collectifs. parce qu'avec aussi cette crise, ils essayent de développer un peu l'agriculture urbaine, ce qui n'est pas facile. C'est pas vraiment quelque chose qui est dans la culture, comme j'ai compris là-bas. Donc ça, voilà, je trouve important de montrer le rôle des femmes dans la révolution bolivarienne. Nous, en Occident, on a un peu cette idée que pour qu'il y ait l'égalité ou l'émancipation des femmes, il faut voir des femmes dans des postes de pouvoir. Et c'est vrai, c'est un aspect, mais c'est pas tout ça. Et vraiment, dans ce genre de processus, les femmes, elles jouent un rôle très important. Là, on va voir, je vous propose justement une petite vidéo produite par, je vais vous en parler un peu plus après, mais produite par une télévision qui s'appelle Terra TV, et qui montre un visage parmi d'autres du Venezuela qu'on ne verra pas dans les médias hégémoniques en Europe. Pourquoi je voulais vous montrer ces 3 minutes de portrait d'une femme vénézuélienne? Il y a plusieurs raisons, mais déjà parce que ce que j'ai trouvé très important en rendant ma mission, c'est qu'en fait les images qui nous arrivent du Venezuela en Suisse, ce sont des images toujours de moments, on va dire, exceptionnels. Il y a toute une quotidienneté, toute une normalité de la vie quotidienne qui est invisibilisée dans les médias. J'irais même plus loin. On nous donne l'impression que c'est une lutte entre deux hommes de pouvoir, ou deux hommes qui veulent le pouvoir. D'un côté, Maduro, qui est le méchant, de l'autre côté, Guaido, qui, lui, serait le démocrate. Mais en fait, c'est complètement à côté de la réalité de ce qui est en train de se passer au Venezuela. Le chavisme, c'est pas Maduro. Maduro fait partie. Mais le chavisme, c'est des millions de personnes. C'est des mouvements sociaux, comme l'a dit Patricia, aussi qui peuvent être critiques, qui peuvent aussi se bagarrer avec le gouvernement. Mais ils savent que ce gouvernement, c'est un mur. C'est un mur qui les protège de l'impérialisme, qui les protège d'une organisation de la société qui rendrait leur lutte, ce qu'ils construisent, impossible. Donc ça, je pense que c'est très important. Moi, je le dis aussi parce que j'imagine qu'ici dans la salle, on est plutôt des personnes de gauche. Mais dans la gauche, ici, il y a, à mon avis, une très mauvaise compréhension de ce qui est en jeu actuellement au Venezuela. Et aussi, on sous-estime ce que ce peuple organisé est capable d'impulser, d'organiser et de décider. Et donc, ce qu'on a vu là, c'était un portrait de Adriana Ramirez, qui est une des femmes, une des nombreuses femmes qui distribuent ces caisses d'aliments subventionnées par le gouvernement. Ça se passe dans un quartier populaire de Caracas qui s'appelle La Pastora, qui est à l'ouest de Caracas. Donc, l'ouest de Caracas, c'est là que vivent 80% des habitants. Et c'est là que la droite essaye de s'implanter et n'arrive pas. Et c'est de ces quartiers-là qu'étaient descendus en 2002 les gens dans la rue pour s'opposer au coup d'État contre Chavez. La droite, elle est surtout implantée dans les quartiers de l'Est de Caracas, qui sont des quartiers chics, ou en tout cas de plus haut standing, on va dire. Et c'est généralement dans ces quartiers que vous voyez les images bien cadrées, gros plan sur les manifestations de l'opposition. J'ai dit généralement. Restons nuancés, mais il faut quand même savoir qu'est-ce qu'ils filment, où ils le filment. Le Venezuela, c'est un pays, même Caracas, c'est une grande ville avec beaucoup de nuances, de différences, et nous, on a quelque chose d'unilatéral qui nous arrive ici. Donc la Pastora, ce quartier, il compte plusieurs collectifs locaux d'approvisionnement. Et il compte aussi plusieurs organisations culturelles comme on a dans tous les quartiers. Avec là, on voyait une école de musique qui est animée de manière spontanée par un professeur qui s'appelle Pichardo, et je trouvais quand même bien de noter, c'est aussi ça la révolution bolivarienne, c'est des millions, des milliers, des millions d'initiatives de gens qui prennent en main leur destin, et ça c'est quelque chose que moi j'ai trouvé très fort. Et évidemment c'est pour eux que nous on est là à parler du Venezuela et à défendre la révolution bolivarienne. cette ambiance calme qu'on voit dans le film, c'est quand même ça qui caractérise la plupart du temps, la plupart du Venezuela. Et je pense que c'est important de véhiculer aussi ces images de ces personnes qui sont invisibilisées par les médias. Je ne vais pas faire trop long parce que je pense que voilà, on a déjà beaucoup parlé. Vous avez certainement des questions ou des remarques. En tout cas, sentez-vous libre de dire tout ce que vous voulez. Peut-être juste, ce reportage, il a été fait par Terra TV, qui est un des médias soutenus parce que le gouvernement bolivarien a produit plusieurs lois pour soutenir les médias communautaires et associatifs. Terra TV, c'est un de ces médias. C'est une télévision paysanne qui cherche à construire une forme de souveraineté populaire dans l'information. C'est une télévision qui ne reprend pas les formats hégémoniques de l'information. Ça ne les intéresse pas de faire du Hollywood ou du faire de la RTS. Eux, ils font une télévision qui va au rythme des paysans, qui répond aux besoins des paysans, qui est projetée pour les paysans, en dehors du marché. Et pour moi, c'était la rencontre la plus fabuleuse de ce voyage. Là, on est avec une partie de l'équipe de Terra TV. Et au centre, là, Thierry De Rhône, qui est le Belge, qui vit au Venezuela depuis 25 ans et puis qui a initié ce projet. Mais enfin, ils sont toute une équipe. Vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir tout leur contenu. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre un sou dans la caisse à la sortie. C'est écrit Terra TV. C'est un projet qu'on a envie de continuer de soutenir. C'est pas un projet que nous on soutient parce qu'on est gentil et puis que c'est des pauvres petits. Au contraire, eux ils nous apportent énormément dans notre compréhension du monde, dans notre compréhension du Venezuela. Et puis dans notre... Moi ça m'a beaucoup appris aussi sur ce que nous on pourrait essayer de revendiquer par rapport à la propriété des médias en Europe. Et donc pour moi c'est ça la base de la solidarité internationale, c'est une pratique commune, c'est un échange commun, c'est une amitié en fait. À un moment donné il faut sortir de ce truc de charité où on va donner un sou. Non, là on est dans un projet en commun et on essaye de construire tous ensemble un monde meilleur, et ça passe aussi par la solidarité avec cette révolution bolivarienne. Voilà, je vous laisse la parole.